Donc là, on est au Hicham Roulachem dans le schéma. Il dit comme ça. Hicham Roulachem, faites attention. Pourquoi Kadosh Bokhu nous demande de faire attention? Le commentaire explique que le problème qu'on a, c'est que, en général, les pauvres ne se révoltent jamais contre Kadosh Baruch Hu. Ils ne se révoltent pas. Ils peuvent avoir des arguments contre Kadosh Baruch Hu, ils peuvent être pas contents, mais ils ne se révoltent pas. La Gemara a dit qu'un homme ne se révolte envers Kadosh Baruch Hu seulement lorsqu'il est rassasié. Alors bon, c'est un terme qui est très vaste. Hein. Je parle bien de révolter, attention.
Ah, du terme révolte ou
rassasié. Voilà. Alors, je dis qu'un homme se révolte que quand il est rassasié. C'est-à-dire que quand j'ai bien mangé, je me sens bien, alors ça peut être mangé ou ça peut être aussi fait une avéra, c'est là que la personne va se révolter contre Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pourquoi? Puisque quand une personne n'a pas de quoi manger, même si c'est une souffrance pour le corps, mais c'est pas une souffrance pour l'âme. Au contraire, on dit que quand les gens sont pauvres et quand les gens souffrent matériellement, c'est là qu'ils se rendent compte qu'en vérité, le spirituel est plus important. Et quand on a beaucoup à manger, quand on a beaucoup de matériel, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, la personne, ben, il a envie de tout lâcher. De tout lâcher, ou bon, il a envie un petit peu de se révolter. Après, il y a révolté et révolté, mais bon. C'est pour ça que, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, Ishamu Olachem. Et maintenant que je t'ai dit que si tu vas écouter ce que si tu vas faire les mitzvot, je vais te donner la bracha, que tu auras la parnassa, et que tu auras les pluies au bon moment, que tu auras assez à manger pour toi et pour tes animaux. Maintenant, je sais qu'il y a un nouveau problème, c'est qu'une fois que tu as à manger, tu risques de me tourner le dos. Ah, je dois te prévenir. Ishamru lachem. Faites attention. Pen ifte levafrem. D'accord? En passant, c'est écrit dans le... Il ramène ici aussi, c'est écrit dans Pirkei Avot, que celui qui accomplit la Torah, alors qu'il est pauvre, il finira par accomplir la Torah en étant riche.
Ouais.
Et celui qui rejette la Torah en étant riche, il finira par la rejeter en étant pauvre. Voilà, ça c'est écrit. Bon. Maintenant, en parenthèse, il faut savoir aussi, voilà, pourquoi je dis c'est écrit, comme ça, voilà. Parce qu'il faut savoir que tout ça, c'était à l'époque quand on avait le Beth Amikdash. Quand on a le Beth Amikdash, on dit que le monde tournait comme c'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire, si la Torah a dit que celui qui fait les mitzvot, il aura à manger, il a à manger. Si la Torah a dit que celui qui fait pas les mitzvot, il aura pas à manger, la pluie ne tombait pas dans son champ. Ou en tout cas, il n'avait pas la réussite. Mais depuis qu'on est en galoute, depuis qu'on est en exil, un des phénomènes de l'exil, c'est que Akadosh Baruch Hu a brouillé les pistes. Et que dorénavant, on a des fois des gens qui nous ont l'air méritants, qui font un mitzvot et qu'ils n'ont pas de parnassa. Et de l'autre côté, des gens qui n'ont pas l'air de faire de mitzvot. D'accord? On voit clairement qu'ils ne font pas de mitzvot. C'est peut-être qu'ils en font, mais en tout cas, ils doivent bien se cacher pour les faire. Et ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc ça fait partie des phénomènes de la galoute. C'est des phénomènes qu'on ne maîtrise pas. Là, on parle dans le schéma, on parle de la normale des choses. Donc, Hicham Roulachem. Faites attention, pen ifte levafrem. De peur que votre cœur, d'accord, pen ifte levafrem, ça veut dire de peur que votre cœur va ifte, ça veut dire pitouille en hébreu. Pitouille, ça veut dire séduire. D'accord? De peur que votre cœur va se séduire. C'est une expression en hébreu qui veut dire que la personne va se convaincre de choses qui n'existent pas. D'accord? C'est ça la séduction. Ça veut dire que on va convaincre quelqu'un avec des facteurs qui sont faux. Pen ifte levafrem, de peur que votre cœur va se séduire. Vesartem. Vous allez vous détourner. Va des thèmes Elohim Acherim. Et vous allez servir d'autres dieux. D'autres dieux. Ça vous dérange pas la phrase que je viens de dire là? Servir d'autres dieux? Hein? Alors, c'est quoi le problème ce que je viens de dire? Vous allez servir d'autres dieux. Ah, bien. Comme si existait. Pourquoi il y a d'autres dieux, ça existe?
D'autres bouts de pierre.
D'accord? Alors, c'est une question que Rachid pose. Oui, non, mais ça veut dire quoi, d'autres dieux? Alors, il faut savoir que Elohim en hébreu, comme on l'a expliqué, ça veut dire des dieux, mais ça veut dire aussi une force.
Puissance.
D'accord, une puissance. Et enfin, on traduit une force. D'accord, là, une force. Et Elohim Acherim, Rachid explique, ça veut dire quoi, d'autres dieux? En vérité, c'est pas comme ça qu'il faut traduire. Elohim Acherim, ça veut dire des dieux qui sont étrangers, qui sont autres à ceux qui les prient. C'est-à-dire comme ça, quand on prie à Dieu, il nous répond. Quand on prie à un morceau de pierre, il ne va pas te répondre. Donc c'est un Dieu qui est autre. C'est un Dieu qui ne te répond pas, qui est étranger. Alors, il y a un jeu de mots en hébreu. Elohim Acherim. Donc des dieux qui sont étrangers. Ça veut dire que tu lui parles et il ne fait rien du tout. Il ne va rien faire du tout. Donc de peur que vous allez vous mettre à servir d'autres dieux. Bon, alors, il faut savoir qu'à l'époque, la Vodazara, il y avait vraiment Yetzarara de Vodazara. Il y avait des statues partout.
Chacun avait sa petite idée.
C'était une Vodazara que... Vraiment, on dit qu'à certains moments dans l'histoire du peuple juif, c'était encore plus fort que le Yetzara des femmes. Plus fort que le Yetzara des femmes. On veut dire que le plus grand Yetzara qu'on a aujourd'hui, c'est le Yetzara des femmes. À l'époque, à certains moments, le Yetzara de l'idolâtrie était encore plus fort que le Yetzara des femmes. Bon, après, les Chachamim ont demandé à ce qu'on l'enlève. Donc on va dire qu'aujourd'hui, c'est quoi Elohim Acherim ? C'est quoi d'autres dieux ? C'est quoi ? C'est l'argent. D'accord ? C'est l'argent. C'est peut-être pas exactement, c'est peut-être pas ça que le Passouk parlait, mais en tout cas, nous on comprend qu'on parle de l'argent.
Que
quand on a de l'argent, on commence à tout lâcher. Vesartem, donc veishtachavitem lahem. Et vous allez vous y prosterner, vous voyez, donc là aussi on peut se prosterner à de l'argent. Comment on se prosterne l'argent, monsieur Bichmitt? C'est celui qui croit que tout le plus important, c'est de gagner. Tous les moyens sont bons, exactement. Ça s'appelle se prosterner à l'argent. C'est-à-dire que le plus important, c'est de gagner de l'argent. Donc, faites attention. Qu'est-ce qui va se passer si nous, on fait ça? Si nous, alors que Kadosh Baruch Hu, on nous a donné toutes les brachot qu'on voulait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a bien à manger, on dit, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin du serveur. J'ai pas besoin du restaurant. C'était très bon et j'ai pas besoin de toi, j'aurais pu prendre tout seul. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on te dit? Vechara af Hashem Bachem. Vechara af Hashem Bachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère de Dieu va s'énerver contre vous. D'accord? Charon af en hébreu, ça veut dire de la colère. C'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup dans l'hébreu moderne, mais dans l'hébreu biblique, on utilise beaucoup ce terme. Quand on dit que Dieu s'énerve, d'accord? Le Kourou, la Kadosh Baruch Hu, on dit Charon af. Af en hébreu, c'est le nez. D'accord? Et donc littéralement, ça veut dire la colère du nez. Vous avez remarqué, les gens, quand ils sont très nerveux, d'accord, leur nez, il peut rougir.
Oh, en plus, il y a le truc, je l'ai dans le nez, celui-là.
Donc, Vechara af Hashem Bachem. Mais ils ont les narines qui grossissent un peu et tout. Bon, en tout cas, en hébreu, on dit Vechara af Hashem Bachem. Le nez?
Non, la colère
enflammée. Enflammée, oui. Enflammée, mais qu'a rapport avec le nez? Le
côté rouge,
ouais. Donc, Vecharaf Hashem Bachem, Dieu il va s'énerver. D'accord? Dieu il va s'énerver. Ve'atzaret Hashamayim. Et il va arrêter, donc il va arrêter le ciel. Alors, arrêter le ciel, ça veut dire quoi arrêter le ciel? Atzar en hébreu, d'accord? Ça veut dire, donc arrêter, mais ça veut dire aussi arrêter dans le sens famine.
La famine.
Ah. Par exemple, quand on est. Une des manières en hébreu de dire de la famine, à part Ra'av, d'accord, c'est de dire aussi Itzaron, Atzeret, d'accord, ça veut dire arrêter, Atzor en hébreu, ça veut dire arrêter. Alors, quand il y a pas de stop en hébreu, c'est écrit Atzor. Donc Ve'atzar et Hashamayim, ça veut dire quoi Ve'atzar et Hashamayim, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va rendre stérile le ciel, il va faire que le ciel ne nous donnera plus de pluie, ou en tout cas pas quand on a besoin. Ve'lo yematar, il n'y aura pas de pluie. Va vadetem mera. Pardon? Ah, ve'adama. Alors, avant peut-être ve'adama le tenetivula. Ici un commentaire qui explique, qui dit qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Kadosh Baruch Hu va s'énerver? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Kadosh Baruch Hu il s'énerve?
Oui, il a des humeurs.
D'accord. Alors il dit comme ça. Il explique comme ça. Il dit que Vecharaf Hashem Bachem, ça veut dire que la Gemara explique que les Rechaim, quand ils font du mal, quand ils font des Averot, ils transforment la Mida de Rachamim en Mida de Din. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est toujours miséricordieux. Et quand ces Rechaim font des Averot, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À Kadosh Baruch Hu, il transforme le Rachamim, la miséricorde qu'il avait, et il va muter ça en Mida de Din, le Din envers nous. C'est pour ça qu'on dit Vecharaf Hashem Bachem. C'est-à-dire que la même énergie avec laquelle à Kadosh Baruch Hu, il nous envoie le Rachamim, la même énergie va se muter en dîme. Après, il pose une question aussi, c'est un commentaire qui s'appelle Dover Shalom. Il pose une question, il dit, pourquoi tu me dis, Dieu il va arrêter le ciel et il n'y aura pas de pluie? C'est évident, s'il arrête le ciel, il n'y aura pas de pluie. Alors il explique, il dit, parce que des fois on voit qu'il y a certains endroits dans lesquels il n'y a pas de pluie, et il y a quand même de l'eau. Par exemple, en Égypte. D'accord? En Égypte, vous savez qu'en Égypte, il n'y avait pas de pluie. Et on va l'apprendre bientôt dans la paracha. D'accord? Qu'est-ce qu'il a donné à Yaakov comme bracha? Il a donné la bracha. Qu'il y aura toujours l'eau du Nil qui va toujours irriguer les champs. Il a donné ce bracha à Paro. D'accord? Donc ça veut dire que des fois, il n'y a pas de pluie, mais il y a de l'eau. C'est pour ça qu'il dit ici, Ve'atzar et Hashamayim ve'lo yematar. D'accord? Premièrement, Dieu il va arrêter le ciel et il n'y aura pas de pluie. Après, il dit, « Ve'a damal, otiten, etivula, la terre ne donnera pas sa récolte. » Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'eau qui viendra de nulle part. Il n'y aura pas d'eau. Ve'a damal, lotiten, etivula, et la terre, donc, ne donnera pas, yevula, sa, yevula, ça veut dire sa production. D'accord? Alors, c'est un terme un peu spécial, yevula. D'accord? Les commentaires expliquent sur le terme yevula, ça veut dire que yevula, ça vient du mot aussi mobile. Mobile, ça veut dire ce qu'on amène. Regardez comment expliquent les commentaires. Ils disent que ve'adama l'otitana yevula, ça veut dire que la terre ne produira pas autant qu'on a planté. Ça ne veut pas dire qu'elle ne produira pas du tout, parce que dans les faits, on voit que ça produit, ça ne peut pas ne pas produire. D'accord? Ça veut dire qu'elle ne donnera pas toute sa production. Yevula, ça vient du mot mobile, ça veut dire que la terre ne donnera pas en contrepartie de tout ce que j'ai planté.
Petit rendement.
D'accord? Donc petit rendement. Rappelez-vous, d'accord, qu'avant on avait expliqué dans les brachot, on avait dit qu'il y aurait un rendement à 100%. Là, on aura un petit rendement. Va avadetem me'era, me'al aret tova. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit va avadetem me'era. Vous serez perdu. Ça veut dire qu'on vous devrez décamper rapidement. Mais à la arête Satova, de la bonne terre, Asher Hashem Noten Lachem, que Dieu vous donne. Là, vous voyez, on est passé à la troisième personne. De la bonne terre que Dieu vous donne. Jusqu'à présent, Dieu disait, faites attention. Après, il dit, vous allez être envoyé de la terre que Dieu vous donne.
Et là, c'est Moshe qui parle.
D'accord. Ah, voilà. On va y arriver parce que ce serait spécial. Hein. Vous voyez, on en a changé là. Bon. Alors, sur le Va'avatem et Ram à la Ratatova, les commentaires expliquent, ils disent que pourquoi Kadosh Baruch Hu dit rapidement? Pourquoi il n'y a pas des procédures? Voilà, les avocats ils vont nous expliquer que même quand il y a une procédure d'expulsion, ça prend du temps.
Non, moi, on me ferme.
D'accord? Ça prend du temps, ça se fait pas. Hein. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit, ouais, vite fait, Va'avatem et Ram tout de suite dehors? Pourquoi? Attends, doucement, laisse-nous le temps, peut-être qu'on va changer d'avis. Les commentaires expliquent comme ça. Ils disent qu'on nous donne, alors c'est intéressant, hein, ils disent qu'on nous donne pas de prolongation, on nous donne pas de temps de se retourner, pourquoi? Parce qu'ils disent, Mishum Shiesh Lachem Humil Ilmot, parce qu'on avait de qui apprendre. On avait un exemple à suivre. Et quand on a un exemple à suivre, on considère qu'il n'y a pas de prolongation. Comme c'est comme un droit français.
Un homme averti en vos deux.
Hein? Ouais. C'est comme un droit français. Quand une personne savait déjà. On pense qu'il savait déjà.
Oui.
Non, mais c'est-à-dire, quand on pense que la personne certainement connaissait la loi.
Les récidivistes, c'est plus cher.
Est-ce qu'on va lui donner une prolongation?
C'est exactement ça, c'est les récidivistes.
Voilà. Non, ça, c'est pas un récidiviste.
Ouais, pas été condamné. Lui, il était avisé.
Voilà, il est
comme un professionnel.
Les circonstances aggravantes.
Ça veut dire qu'il savait, il pouvait apprendre de quelqu'un.
Pertinemment.
Donc, va avaltem era, mea la arete tova, asher hachem, noten lachem. D'accord? Donc vous allez devoir décamper. Donc avadetem, ça vient du mot aveda. Aveda en hébreu, c'est comme ce Daniel.
Avis, non?
Aveda.
Non, pas avoda.
Avoda.
Aveda.
Je connais le mot, mais...
Qu'est-ce qu'on fait le... Hein, c'est quoi, Julien? Une perte. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin?
Ah ouais.
Aveda. Avec un aleph.
Il y a longtemps.
Donc vous allez être perdu. D'accord? Littéralement, c'est être perdu de la terre.
Égaré.
C'est un terme qui est très dur, hein. Être perdu, ça veut dire que on va être éjecté. Mais rare rapidement, maher. Mais à la arête tova.
Laisse-moi, c'est sur le plan individuel ou collectif?
Collectif. Attention, on n'a pas parlé de mort ici. Hein. Ouais. On parle simplement qu'on n'aura plus les privilèges qu'on avait.
Ouais.
Voilà.
Lesquels?
Voilà, qu'on était sur la bonne terre, qu'un Kadosh Baruch Hu nous a donné.
Quel poussée facile.
Mais à la arête tova, Asher Hashem, Noten Lachem, que Dieu est en train de vous donner. Alors, Asher Hashem Noten Lachem, c'est un présent que Dieu vous donne. Ça, que Dieu vous a donné ou que Dieu vous donnera. D'accord? Jusqu'à présent, dans le chemin aussi, vous avez remarqué qu'on parlait au futur. Si tu vas écouter, tu auras ça, faites attention. Si vous n'écoutez pas, vous aurez ci. Et là, tout d'un coup, à la fin, il dit, vous allez perdre la terre que Dieu est en train de vous donner. Alors que c'est Dieu qui est en train de parler.
Il n'arrête pas de nous la donner.
Alors, Rashi explique qu'en vérité, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Toute cette paracha, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Alors si c'est Moshe Rabbeinu qui parle, comment Moshe Rabbeinu peut dire « Je donnerai la récolte dans ton champ ». Il devrait dire « Dieu donnera la récolte dans ton champ ». Et de là, les Chachamim disent que Moshe Rabbeinu, il avait « Shrina metaberet tor grono ». Que Moshe Rabbeinu avait la Shrina qui parlait de sa gorge. C'est-à-dire que quand il disait « Je donnerai », c'était à la place de Kadosh Baruch Hu. Mais quand il a dit à la fin « Vous allez perdre la terre que Dieu est en train de vous donner.
Il a pris conscience.
Là, il est en train de parler en tant que maître à ses élèves. Vous allez perdre la terre que Dieu est en train de vous donner. Parce que ça, c'est la parasha de Vayem Shamoa. Moshe Rabbeinu l'a dit juste avant que l'Ibn Israël rentre en Eretz Israël. On est dans le Chumash Devarim. Donc le Chumash Devarim a été entièrement écrit dans les quelques jours. Enfin, écrit, hein, il a été... Il se déroule dans les quelques jours avant que Moshe Rabbeinu parte de ce monde. Donc il les prépare à l'entrée d'Israël. Il a dit, voilà ce qui va se passer. Asher Hashem Noten Lachem. Si vous allez écouter, tant mieux. Sinon, vous allez être éjecté de la terre que Dieu est en train de vous donner, en d'autres termes, de la terre qu'on est en train d'attendre depuis 40 ans, d'accord, et que Dieu est en train de nous donner. Et que ça fait 40 ans qu'on bosse. Et bien, si vous allez faire les malins, vous allez tout perdre. Vesamtem et Devaray Ele. Ensuite, il continue. Il dit, Vesamtem et Devaray Ele. Vous allez placer, d'accord, vous allez placer ces paroles-là. Al levavchem sur votre cœur. Ça veut dire quoi, hein? Explique les commentaires que c'est basé sur Rashi, sur la Gemara, que là, le Vesamtem et Devaray Ele, il parle de la galoute. Qu'est-ce qu'il dit? Au début du schéma, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a un ordre dans le Vayem Shamoa. Au début du Vayem Shamoa, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur. Et dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu donnera la récolte, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on a dit, c'est faites attention, si vous n'allez pas écouter, c'est le contraire qui va se passer. Enfin, presque le contraire. Alors, c'est pas exactement le contraire, mais en tout cas, le contraire sur le plan de la terre, qu'on va être éjecté de la terre d'Eretz Israël. Troisième point, hein, quand on est en galoute, alors, ok, moi je dis, ok, maintenant que je suis en galoute, j'écoute pas les mitzvot. D'accord, puisque qu'est-ce que tu m'as dit, si vous allez écouter, vous allez recevoir, vous n'allez pas écouter, vous allez être en galoute. Donc maintenant, tant qu'à faire, si je suis en prison maintenant, tant qu'à faire, je me casse. Je ne veux pas écouter ce que tu me demandes. Je dis non. Vesamtem et Devarayele. Rabbi dit que même quand on est en galoute, même quand on est en exil, il faut exceller dans les mitzvot. D'accord? Donc il faut mettre les tefilines. Il faut faire des mezuzot. Donc Vesamtem et Devarayele. Vous allez placer ces paroles, les paroles que je vous donne. Alors bon, il y a plein de remazim, hein, il y a plein d'allusions dans ce et Devarayele. D'accord? Faut savoir que chaque fois qu'il y a écrit le mot et dans la Torah, d'accord, c'est un terme qui est en trop. Parce qu'en hébreu, on aurait pu dire Vesamtem Devaray Ele. Et Devaray Ele, on va dire que c'est plus poétique, c'est plus joli. Mais en hébreu moderne, par exemple, on aurait dit Vesamtem Devaray. On n'aurait pas dit le mot Et. En hébreu moderne, aujourd'hui, on utilise très peu le mot Et. Parce que c'est un mot en plus, c'est un mot pour rendre joli. Alors, la Gemara dit que chaque fois qu'il y a un Et, c'est pour nous apprendre quelque chose. Et que la Torah nous fait passer un message ici. C'est qu'il y a, ça s'appelle un ribouille. Et quel message la Torah nous fait passer ici avec le Et? Le message que la Torah nous fait passer avec le Et, c'est pour nous apprendre qu'on doit former des Talmidei Chachamim, on doit former des érudits, et que on doit également étudier Ta'amei HaMitzvot VeSodei HaTorah, les raisons des mitzvot, les secrets de la Torah, ou Ma'aseh Bereshit. Ou Ma'aseh Bereshit, ça veut dire étudier, c'est ce qu'on étudie dans les cours, par exemple le cours de Tania de lundi soir, c'est on essaie de comprendre comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde. D'où on sait qu'il faut apprendre ça? C'est pas écrit. D'où on apprend ça? C'est écrit qu'on apprend ça du mot Et. Comme c'est écrit et, ça veut dire qu'on rajoute quelque chose. Ensuite, et devaray ele, ces paroles, donc vous placerez ces paroles. Vous placerez mes paroles, d'accord, ceci. Le mot ele est en trop aussi. Ele, c'est la valeur numérique de Aleph. C'est 1, Lamed, 30, donc 31, He, c'est 5. Ça fait combien? 36. Ça correspond à quoi 36?
Tzadikim qui...
Hein? Où on retrouve le mot 36? 36.
Là où?
Julien, t'as dit quelque chose, 36? 36 Macertot. 36 traités. D'accord? 36 traités qu'on a dans la Torah orale.
Sympa.
De Mishnah, oui. On a aussi, à part ça, dans les Louchot, d'accord? Les tables de la loi. D'accord? Les tables de la loi, elles faisaient 6 fois 6, exactement. C'est-à-dire 36. D'accord? Donc c'est des rémazim, c'est des allusions, tout ça.
6 fois 6, quoi?
Bon, 36. Hein? En tout, ça faisait 36 Fahim.
Non, mais je parle des...
36 tefachim, les tables de la loi, ils faisaient en tout 36 tefachim. 36 tefachim, ça veut dire, un tefar, c'est 10 cm.
Ah, d'accord. C'est la...
Donc ça fait combien
C'est la dimension,
360. 3m60.
3m60. C'est impressionnant, hein.
C'était carré.
3m60.
En tout, carré.
C'était carré.
3m60.
Carré. Ça fait combien? Je sais pas combien ils avaient en surface.
15 fois 15, 220.
6 sur 6.
1m60 sur
1m60. 6 sur 6, voilà.
Ah, alors quoi?
C'est pas très grand.
6 sur 6.
60, non, 60 cm.
Sur 60.
60 ou 60?
Ah, mais c'est tout petit alors.
Bah oui, c'est tout petit. Ça rentrait, on dit que les louchot étaient dans le...
Ah bah oui.
Les louchot étaient dans le haron. Le haron n'était pas très grand. Alors, Donc, Vesamtem et Devarai Elé. Vous allez placer ces paroles-là. Ça veut dire que c'est quoi ce terme-là, placer ces paroles-là? D'accord? Donc, ces paroles-là, on parle de la Torah. Placer, d'accord? En hébreu, ça veut dire aussi intégrer. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous dit que même quand on est en galoute, on devra faire tout notre possible pour intégrer la Torah. Al levafrem ve al nafshechem. Al levafrem ve al nafshechem, ça veut dire sur vos cœurs et sur vos âmes. D'accord? Donc, on avait expliqué avant que c'est quoi levafrem, ça correspond à quoi? Ça correspond au yetzer tov, au yetzer hara, puisque c'est écrit avec deux bêtes. Et nafshechem, ça veut dire que ça correspond à quoi? On avait dit b'chol levafra, b'chol nafshecha ou b'chol modecha. Levafra, on a dit, c'est Yitzhak Tov Yitzhara. Nafshecha, c'était quoi? C'est le fait de se laisser tuer, très bien. Et Bechol Meodecha, d'accord? Ça veut dire de tous ses moyens, tout son argent. Alors, on a expliqué la semaine dernière que quand on parle au plan communautaire, on ne parle pas de Bechol Meodecha. Parce qu'on estime qu'une communauté aura toujours de l'argent. Donc, il y aura, jamais on pourra dire qu'une communauté n'aura pas assez d'argent. En général. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, Bechol Levafrem ou Chol Nafshechem, qu'en exil, le plus difficile sera de quoi? Sera d'intégrer la Torah, de faire que le Yetzer Tov et notre Yetzer Hara suivent la Torah, et Bechol Nafshechem, de manière à ce que, s'il faudra, il faudra donner notre vie pour ça. Ça sera ça le plus difficile en exil. Vukshartem Otam Leot Alietrem. Donc même en exil, vous devrez accomplir les mitzvot, comme on a dit, et vous devrez donc les attacher en signe, quand Aliadechem sur votre main. Donc on parle des tefillin. Ça, on a déjà expliqué dans le premier paragraphe du schéma. Qu'est-ce que ça veut dire que les tefillin sont un signe? Va'yul et tatafot ben enechem. Va'yul et tatafot ben enechem. Et donc, vous devrez mettre les tefillin aussi entre les yeux. Donc, on a expliqué tout ça aussi. C'est quoi tatafot, etc. Velimatem otam. D'accord? Velimatem otam. Et vous allez les enseigner. Alors, il nous fait remarquer Rashi que dans le mot velimatem, on a deux mots. On a le mot limoud. D'accord? Et on a le mot tam. Limoud, tam. Velimatem. On a le mot lamed, on a le mot tam. Lamed en hébreu, ça veut dire étudier. Tam en hébreu, dans la Haggadah, un des quatre enfants. Le tam, le simple. Ça veut dire que vous devrez étudier de façon simple. Ça veut dire quoi étudier de façon simple? J'y explique, il dit, ça veut dire que quand on étudie, il faut laisser un espace entre les paragraphes. De manière à laisser... Il faut faire comme si qu'on est simple. Il ne faut pas dire j'ai compris, c'est bon, on avance. Il faut faire comme si qu'on est simple, et il faut essayer de prendre le temps à chaque fois d'analyser, de comprendre ce qu'on étudie. C'est ça le velimad tem. Il faut étudier comme un enfant simple, avec un enfant simple. On lui donne du temps pour réfléchir. Nous aussi, on doit se donner du temps pour réfléchir, même si on pense qu'on a déjà compris. Velimad tem. Donc, lamed tam. Velimad tem otam, et benechem ledaberbam. Vous devrez enseigner à vos enfants les daberbam à en parler. Ça veut dire que, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on devra étudier la Torah, on devra placer la Torah sur nos cœurs et sur nos âmes. On a dit qu'on devra mettre les tefilines, donc sur la tête, sur le bras. Donc ça, c'est une manière de dire, le bras, ça veut dire qu'il faut soumettre son cœur. La tête, ça veut dire il faut soumettre sa tête. Et il faudra enseigner à ses enfants les daberbam pour en parler. C'est un peu spécial comme terme. Vous allez enseigner à votre enfant pour qu'ils en parlent. De là, le Chachamim m'explique, c'est Rashi qui le dit, que dès qu'un enfant sait parler, c'est-à-dire que la première chose qu'on lui apprend, c'est quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ça ce qui veut dire le verset. Vous allez enseigner à vos enfants les daberbam, d'accord, pour en parler. Ça veut dire que dès qu'ils parlent, la première chose qu'ils vont dire, c'est ça. Les daberbam. Il y a beaucoup d'allusions hein, dans cette partie du schéma. Quelle heure il a? Oui, bon, je finis, je conclue. Veshivtecha bevetecha, je conclue parce que ça c'est comme le premier paragraphe du schéma. Veshivtecha bevetecha uvlatecha vaderer, uvshavecha uvkumecha. Donc vous allez enseigner la Torah à vos enfants, lorsque vous serez à la maison, lorsque vous serez dans la route, en vous couchant et en vous levant. Donc on a expliqué tous les détails dans le premier paragraphe du schéma, vous pouvez écouter sur le site si vous n'êtes pas encore écouté. Urtaftam, almezot bevetecha uvisharecha, d'accord? Et vous allez écrire sur les mezuzot de vos portes, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Leman irbu yemechem. Juste après la magnitude de la mezuzah, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit Leman irbu yemechem, afin que vous vivrez longtemps. De là, on voit Rashi nous explique que celui qui fait attention à la mezuzah de mezuzah, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a aussi une segula pour vivre longtemps. Celui qui fait attention à la mezuzah, regardez ce qu'il dit dans le verset. Il nous a parlé des tefilin. Ensuite, il a parlé de la Torah. D'accord? Ensuite, il a parlé des mezuzot. Et ensuite, il dit afin que vous vivrez longtemps. Donc de là on voit, puisqu'on a mis les mezuzot à côté de la longue vie, ça veut dire que la mezuzah, c'est une segula pour vivre longtemps. D'accord ? Rashi explique que le Leman Irbouye Mechem, il se reporte sur les deux choses précédentes. Il se reporte sur la Mezouza, que la Mezouza c'est une Ségoula pour vivre longtemps. Il se rapporte aussi sur ce qu'on a dit juste avant, qu'il faut enseigner à nos enfants. Il faut étudier la Torah. Parce que c'est écrit que étudier la Torah, c'est un poison de vie. Enfin, c'est un médicament, quoi. Littéralement, ça veut dire un poison. Sam Chaim. Voilà. Alors, Leman Irbouye Mechem, Imevenechem, afin que vont s'allonger, vont s'augmenter vos jours et les jours de vos enfants. Parce qu'on a dit que la Torah, on l'a enseignée à nous et à nos enfants. Alors, je l'ai étudiée, j'ai enseigné à mes enfants. Donc c'est une ségoula pour moi et pour mes enfants. Ala adama shanishba Hashem l'avotechem, sur la terre que Dieu a promis, que Dieu a juré, donc, l'avotechem à vos parents. Donc là, il parle encore de la troisième personne. Puisque là, c'est Moshe Rabbeinu qui parle, c'est pas Dieu. La tête l'aime de leur donner. Donc sur la terre que Dieu a promis à vos parents qu'il allait leur donner, qui met à Shamaïm, d'accord ? Qui met à Shamaïm à la Haaretz. Qui met à Shamaïm à la Haaretz, ça veut dire quoi ? Rashi explique, il dit, de la même manière que le ciel va de la même manière que le ciel s'occupe de la terre, et que c'est le ciel qui abreuve la terre, qui emmène de la pluie à de la terre, et bien de la même manière, écoutez bien ce qu'il dit Rashi, de la même manière, la parnassa du monde entier passera par vous. Ah oui. De la même manière que le ciel, c'est évident que c'est le ciel qui nourrit la terre. Et bien de la même manière, à l'époque, on a le Beth Amikdash, tout tournait normalement. Aujourd'hui, quand on est en galoute, on tourne pas normalement. Aujourd'hui, on tourne dans un régime qui n'est pas normal. Mais quand on avait le Beth Amikdash, qui met à Shamaïm à la Haaretz. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu fait que c'est évident que c'est le ciel qui donne la pluie à la terre, et bien de la même manière, qui met à Shamaïm à la Haaretz, le Ham Israël, c'est naturel que la parnassa du monde entier passe par eux. Ça veut pas dire qu'ils vont tout prendre l'argent, mais ça veut dire que c'est eux qui sont au centre des affaires. Qui met à Shamaïm, d'accord ? Voilà. C'est eux qui connaissent des affaires. Alors, juste, je voulais conclure sur un petit point. Vous avez remarqué que dans le deuxième paragraphe du schéma, on répète beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que c'est sur le plan communautaire, mais on répète beaucoup de choses qui ont déjà été écrites dans le premier paragraphe du schéma. Donc, on se demande pourquoi. Là, il y a un enseignement qui est tiré. C'est qu'il faut savoir que même un paragraphe comme le schéma, qu'on répète trois fois par jour, d'accord, donc en fait on dit le matin, le soir, enfin même quatre fois par jour, pour ceux qui disent deux fois le matin. Il faut savoir que c'est très important la répétition, la chazara. Et que même un paragraphe qu'on répète deux, trois, quatre fois par jour, la chazara est très importante, il faut constamment réviser. C'est pour ça que dans le schéma, il y a certaines choses qui ont été répétées. Mais bon, bien que c'est pas vraiment une répétition, comme je vous expliquais, puisque c'est pas vraiment une répétition, puisque le premier paragraphe du schéma parlait sur le plan individuel, alors que Bokartov. Alors que le deuxième paragraphe du schéma parlait sur le plan communautaire. Donc, le Vayayim Shamoa s'est découpé en trois paliers. Le premier palier du Vayayim Shamoa, c'était ce qui va se passer si on va écouter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Dans ce cas-là, il va nous donner tout ce qu'on a besoin. D'accord ? On aura la récolte, etc., en son temps, tout ce que vous voulez. Deuxième palier du schéma, c'est si on n'écoute pas. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Eh bien, il n'y aura plus de pluie, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Parnassa. Plus de signes de Parnassa et qu'on sera éjecté de la terre. Et troisième palier, lorsqu'on sera en exil, même lorsqu'on sera en exil, il faudra continuer à garder les mitzvot, donc tefilin, et plus particulièrement étude de la Torah. Donc tefilin, on a dit, ça veut dire soumettre le cœur et soumettre la tête, donc tefilin du bras, tefilin de la tête. Il faudra étudier la Torah et l'enseigner à ses enfants, ainsi que mettre les mezuzot, et la mezuza et l'étude de la Torah, et l'enseignement de la Torah, sont une ségoula, les ma'an irbu yemechem, pour vivre longtemps sur la terre. Ça veut dire que c'est grâce à ça que Mashiach viendra.
Amen.
Voilà.
Rav David Menaché,
oui.
Il enseigne, enfin j'ai entendu de lui, il dit pourquoi al mezuzot, pourquoi au pluriel ? Normalement, c'est, le minimum c'est une mezuza.
Ouais.
Il dit parce que l'homme il a deux portes en vérité. Il a celle de chez lui, dans son intérieur, donc ça doit être cachère, il a aussi la porte de ses yeux. Il doit faire attention à ce qu'il voit, c'est pour ça qu'il doit passer une mezuzah aussi, pour ne pas laisser rentrer...
Nous, on avait expliqué dans le cours, dans le premier cours, là, sur la première parole du schéma, on avait dit que Urtaf, que mezuzot, normalement, c'est écrit avec deux vav. Ouais. Même zain, vav, tav. Ouais. Pourquoi c'est écrit avec un seul vav ? On avait dit que de là, on apprend que la mezuzah, on la met que sur un fronteau de la porte. Un frontal, enfin je sais pas comment on dit ça. Un frontal, hein ?
Fronton.
Un fronton ? Un fronton de la porte. Ouais. Là, ce qui manque un vave. Bon, mais Khazak, c'est un très joli pirouche. Voilà, ça va ici. Voilà, vous voyez que c'est enseigner la Torah, ouais. Mezouza, c'est une ségoula pour que ma chair va venir. Parce qu'on a dit, Kadosh Baruch Hu dit, que grâce à ça, on a dit que le troisième palier qui parle de la galoute, on a dit que grâce à ça, hein, on vivra longtemps et on pourra avoir ma chère si tu veux.
Amen, amen.